Alors, Sophie Gollin, bonjour.
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 Alors, je vais commencer avec la question que je pose à tout le monde. Vous êtes né où et quand?
Alors, où est-ce que je suis née? Je suis née à Bordeaux le 16 novembre 1977.
OK. Alors, parlez-moi un peu de votre enfance, votre famille.
Ben, je suis née d'un papa qui s'appelle Arthur Gollin, qui va du nom de Jean, et d'une maman qui s'appelle Jacqueline Gomez. Alors, ma mère est née en Algérie et mon père est né. En fait, non,
OK, vas-y.
en fait, il est né à Bordeaux, en France.
À Bordeaux.
Et donc, c'est ça. Mes parents se sont rencontrés, je pense, assez tard dans la vie, vers 33 ans. Et puis, on a eu deux enfants. Donc, moi, je suis la deuxième. Mon frère David est resté en France. Lui, il est encore en France. Et puis, moi, je suis ici. Mais alors, mon enfance, c'est très varié. J'ai eu beaucoup de choses qui ont marqué mon enfance. J'ai grandi entre Bordeaux et la mer, parce que mon papa était skipper. Et il faisait beaucoup de bateaux, de voiliers. C'était son métier de convoyer des voiliers. Et puis, il avait construit son bateau à lui, qui s'appelait le Soda, pour Sophie David.
Ah oui.
Il ne pouvait pas l'appeler Dassault, forcément, parce que Dassault, c'était la compagnie aérienne, enfin,
Oui.
les choses aériennes. Et en fait, mon père a appelé son bateau le Soda, et on a navigué beaucoup avec le Soda pendant des années. Alors, on était entre la terre et la mer. Et puis, ma mère, elle était dans le social, elle travaillait dans le social. Et a décidé de suivre son mari dans sa passion de la voile.
Alors, quand vous parlez de bateau, voile, est-ce que c'est pour la pêche, c'est commercial, c'est quoi exactement?
Non, c'était tout. Le métier de mon père, alors au départ, il a commencé comme décorateur de bateaux. Et puis après, il s'est lancé dans les traversées à la voile pour convoyer pour en fait amener des voiliers d'un point à un autre. Donc des gens achetaient des voiliers et demandaient à mon père de skipper le voilier jusqu'à tel endroit ou jusqu'à tel pays, etc. Donc il a passé sa vie sur les bateaux.
Alors, comme enfant, vous êtes promené en bateau beaucoup, vous êtes
Mais oui, on
c'était
découvre pas mal le
l'aventure.
monde. Oui, on découvre le monde, ça donne le goût de l'aventure et surtout ce que ça crée. Ça crée un sentiment certainement de non-enracinement. C'est-à-dire que je pense que dès petit, quand on passe autant de temps en voyage, on crée un chez-soi partout où on va. Et ça a été important pour ma vie ici, ou quand j'ai décidé de partir de France, parce que ça n'a pas été dans la douleur. C'était facile, c'était pas un déracinement déchirant, c'était tiens, c'était ma nouvelle aventure. Combien de temps est-ce qu'elle va durer? Je ne sais pas. Mais ce sera mon aventure à moi. Et puis, le bateau, c'est drôle parce que, en fait, ce dont je m'aperçois, c'est que le bateau m'a donné beaucoup de choses aujourd'hui. Ça m'a donné, un, donc le sentiment de non-enracinement, de me sentir très libre. Deux, ça m'a donné aussi le goût des ciels ouverts. Et quand je suis arrivée au Manitoba, c'est ça que j'ai vu. C'était les ciels ouverts. Alors vous comprendrez que vivre à Bordeaux, qui est une très grande ville en France, très très dense en population, avec des immeubles assez hauts, le ciel ouvert, on l'a pas beaucoup. Donc vous arrivez au Manitoba, et puis là vous avez cette grande ville, mais où vous voyez le ciel. Alors c'était une découverte pour moi.
Et votre mère, dans tout ça, elle travaillait dans le social,
Dans
que
le
vous disiez.
social.
Ça, je ne connais pas l'expression,
Alors,
là.
elle travaillait dans le social, c'est-à-dire qu'elle travaillait en tant que. Elle gérait l'accueil de gens qui étaient sans emploi, donc des demandeurs d'emploi. Ça s'appelait la CEDIC à l'époque en France, et maintenant ça s'appelle Pôle emploi. C'est l'équivalent de EI ici, de l'assurance chômage. Et elle s'occupait de recevoir des demandeurs d'emploi qui étaient en fin de droit, et d'essayer de leur trouver des façons pour qu'ils puissent continuer à vivre ou à chercher des emplois. Donc elle était dans elle essayait de trouver des parcours de vie à ces gens-là.
C'est ça. Et puis vous et votre frère, comme enfant, vous voyagiez avec votre père ou...
Ah oui, on voyageait beaucoup avec mon père. Donc, on a voyagé beaucoup les étés, aussi en dehors des étés, dès qu'on pouvait partir avec lui. Mmh. Et puis, avec mon cousin aussi, Alexandre, qui partait en voyage avec nous dès qu'il pouvait, parce qu'il adorait le bateau. Moi, je dois avouer que quand j'étais petite, je ne comprenais pas ce que je faisais sur un bateau et j'étais pas mal en colère. Mmh. De devoir être sur un bateau alors que toutes mes copines, elles étaient sur terre et que j'avais pas une vie normale, je voulais avoir une vie normale. Mmh. C'est que bien plus tard, quand j'ai réalisé la chance que j'avais eue d'avoir visité autant de pays, d'avoir grandi en voyant les dauphins autour de moi, en nageant dans les mers diverses du globe, que j'ai réalisé que vraiment j'avais eu une chance extraordinaire qui m'avait ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur beaucoup de pays, sur beaucoup de cultures, etc.
Quand vous parlez de beaucoup de pays, on parle de quoi là? C'est surtout l'Europe, là, j'imagine?
Mais pas mal l'Europe, et puis après, c'est vrai qu'on a fait aussi Israël, parce que ma mère est juive, et on avait nos grands-parents là-bas, donc on allait aussi en Israël. On a beaucoup voyagé, en fait, en tant qu'enfant, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique du Nord, la seule partie du monde que j'ai pas faite, c'est l'Asie, en fait.
Alors, votre pied à terre, c'était Bordeaux, mais il y avait
c'est ça.
Toute cette dimension de voir différents endroits à différents moments.
C'est ça.
Et puis, est-ce que tout ça a changé quand vous avez eu, je pense, 4 ans, l'école là-bas?
Oui, mais quand j'ai eu 4 ans, ça n'a pas vraiment changé parce que finalement, mes parents étaient assez libres dans leur tête et avaient décidé que ce qui était important, c'est qu'on voyage. Mm-hmm. Donc ça n'a pas véritablement changé. Je dirais que ce qui a vraiment changé, là où j'ai commencé à beaucoup moins vouloir partir, c'est quand j'ai commencé à faire de l'aviron. J'étais dans l'équipe... dans une équipe à Bordeaux qui faisait de l'aviron. Mmh. Ma mère était championne du Maroc d'aviron. Et j'étais une enfant qui avait beaucoup de difficultés à rester en place. Ouais. J'avais beaucoup d'énergie. Je pense pas qu'on pourrait appeler ça des troubles de l'attention parce que j'étais très, très capable de me concentrer. Mais j'avais besoin de beaucoup bouger. Et je fatiguais pas mal de monde.
Ouais. Alors...
Et donc, ma mère, un jour, est allée voir le pédiatre et puis elle disait qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle ne savait pas me gérer. Et puis, puis il lui a dit, faites-lui faire du sport de façon assez intense. Et donc, elle dit, peut-être je vais lui faire le sport que moi j'ai fait quand j'étais jeune. Parce que je sais que ça, on ressort et puis on est fatigué. Donc, elle est allée m'inscrire au club d'aviron. Et là, j'ai commencé. Ça a été une véritable passion pour moi.
Ça, c'était à quel âge?
J'avais 14 ans.
14 ans,
voilà.
OK. Mais parlez-moi un peu, là, vous êtes entré à l'école, parce que forcément, c'est comme au Canada, on doit aller à l'école.
Et c'est
puis,
ça.
Comment ça s'est passé, ça?
Ben, ça s'est passé bien. J'étais à l'école publique, ça s'appelait l'école alimentaire Paul Bert. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs extraordinaires. Mm-hmm. Des enseignants, vraiment, je me souviens de chacun d'entre eux, en fait. Et... de la maternelle, réellement, jusqu'au lycée, c'est-à-dire jusqu'à la 12e année. Mm-hmm. J'ai eu la chance d'avoir un parcours scolaire, pas du tout exemplaire, parce que j'étais très dissipée. J'avais beaucoup de mal à ne pas parler. Mais ce qui était embêtant, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de prise sur moi parce que j'arrivais quand même à m'en sortir pas mal bien au niveau des notes. Mmh. Donc au niveau scolaire, ça marchait bien. Et puis, et cette école Paul Bert, c'était pareil. C'était beaucoup dans la... j'ai eu la chance de grandir dans cette école où il y avait beaucoup de mixité. J'avais beaucoup de petits copains africains, nord-africains, enfin que... on sentait qu'il y avait que c'était un mélange, et puis très ouvert sur l'autre, en fait.
Mais étant habitué à voyager en jeune enfance, et puis ensuite on arrive, on est assis dans un banc d'école, est-ce que l'adaptation était difficile, ou avec les amis, tout ça, ça... Ça a changé de paysage, là.
Non, non, c'est ça, ça a changé de paysage et puis je trouvais que c'était assez facile. Je dois avouer que j'ai une enfance très heureuse. Et puis, comparé à beaucoup de gens autour de moi qui avaient des difficultés à la maison, et puis je réalisais très jeune la chance que j'avais. Et puis j'attirais beaucoup les gens qui avaient plus de problèmes à la maison parce que ma mère avait une porte très ouverte à la maison. Donc tout le monde venait. Et puis c'était depuis toute petite, hein, c'était depuis l'âge de 6 ans, j'avais les copains et les copines qui venaient à la maison, qui restaient à la maison les fins de semaine, etc. Et puis, la maison était très 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 ouverte. Et ça a été, c'est quelque chose que je reproduis encore chez moi aujourd'hui parce que je crois que c'est ça qui m'a rendue si heureuse en tant qu'enfant. C'était de voir que rien n'était compliqué. Il n'y avait pas de, c'est pas parce que on n'avait pas préparé à manger pour des invités qu'on pouvait pas inviter du monde. Je me souviens de ma mère, il y avait un mendiant en bas de la rue, quelqu'un qui demandait de l'argent pour vivre et qui jouait du saxophone. Et maman l'invitait souvent à venir souper avec nous. Donc c'était une. Elle avait un cœur immense. Elle a un cœur immense d'ailleurs, toujours. Et puis mon père un peu plus dur, je pense, mais il s'est laissé assouplir par ma mère, je pense, par la générosité
Mais
de ma mère.
elle, c'était une extension un peu de son travail, c'était qu'elle voyait ces gens-là
Mais je dirais plutôt le
dans le
contraire,
cadre.
en fait. Je crois que je dirais le contraire. Je pense qu'elle a choisi ce métier parce qu'elle avait ce cœur-là. Oui, je pense que c'était.
Alors, c'est ça, elle avait une ouverture à ces
Oui,
gens-là, puis
absolument.
elle était à l'aise. Votre père étant
Un solitaire.
un solitaire qui aime le bateau, qui aime la
C'est ça.
mer, on est tranquille
Oui.
sur l'eau, il n'y a personne qui nous
Il se
dérange.
faisait. Voilà.
Alors, ça devait être un peu un contraste, mais
Oui.
ça faisait un bon mélange.
Oui, c'était les contrastes. Oui. C'est vrai que. Et puis, j'avais la chance aussi d'avoir les grands-parents à l'époque, quand j'étais toute petite, qui vivaient pas loin de la maison. Mes grands-parents du côté de ma mère, du côté de mon père, je les connaissais pas. Et puis, ils étaient décédés, puisque j'ai jamais connu mon grand-père du côté de mon père, mais du côté de ma mère. Mais ma grand-mère du côté de mon père est décédée quand j'avais 2 ans, je crois. Et puis on avait très peu de relations avec la famille de mon père, qui se déchirait pas mal pour des questions d'héritage. Alors, du côté de ma mère, c'était pas mal pauvre. Du coup, on se déchirait pas. Il n'y avait pas de raison de se déchirer.
Alors, il y avait toute cette dynamique, c'était des gens qui, évidemment, très indépendants. Et puis, en France, il y a beaucoup de gens que je connais qui ont un peu une crainte de sortir de ce qu'ils connaissent, ce qu'ils aiment,
Oui.
des gens qui sont là depuis 15 générations dans la même ville.
Oui.
Alors, vous, ce n'était pas le cas. Votre mère venait d'ailleurs, votre père était aventurier.
Ah oui, c'était une maison complètement diverse. Oui, c'était le règne de la diversité. Ma mère était juive, mon père était issu d'une famille très catholique. Maman était plutôt avait vécu dans la pauvreté, mon père dans l'opulence. Enfin, c'était vraiment comment dire, ma mère avait beaucoup voyagé étant jeune, mon père pas vraiment. Il vivait dans des résidences, enfin dans des maisons avec des employés pour le servir, etc. Ma grand-mère était, du côté de mon père, ma grand-mère était collectionneuse d'art. Et elle a acheté plus tard un château, en fait une abbaye de moines bénédictins et dans les Landes. Et elle s'est prise de passion pour cette abbaye. Et du coup, mon père a vécu dans l'art et a développé une passion pour l'art. Donc il avait l'art et les bateaux comme passion. Et ma mère ne connaissait pas grand-chose de l'art et rien de la voile. Donc du coup, ma mère était juive, mon père était athée au dernier degré parce qu'il voulait plus entendre parler de religion. Il n'y avait rien pour les imaginer ensemble, et pourtant encore aujourd'hui ils le sont. C'est ça.
Oui. Et parlez-moi un peu de l'école. Est-ce que c'était un cadre rigide? Est-ce que c'était
Ah non.
c'était quand même
C'était très souple.
souple?
C'était très souple. Je pense que, enfin, très souple. Il y avait beaucoup de règles, beaucoup plus qu'en France, beaucoup plus qu'au Canada. Je me souviens en CE2, on avait CE2, c'est-à-dire deuxième année, non, troisième année. On avait encore, les professeurs avaient encore le droit de nous taper sur les doigts avec des règles. Donc bon, c'est vrai que quand on pense à ça aujourd'hui, mais bon,
Oh, c'est
c'est.
arrivé ici aussi, moi aussi.
Oui, ok,
Oui.
mais aujourd'hui, là, c'est
Oui, oh
impensable.
oui.
C'est impensable. Et Dieu merci, quelque
Oui,
part, parce que
exactement.
vraiment.
Mais vous savez, on nous faisait pas mal, mais quand même,
Ah oui,
c'était permis,
c'était.
un petit coup sur
Ou alors
la main.
Ouais. Donc oui, il y avait beaucoup de discipline, je dirais. Tant mieux, quelque part, parce que j'étais assez indisciplinée. Donc je pense que ça m'a pas fait de mal. Mais le cadre n'était pas rigide, non. L'école était. C'était un milieu ouvert. J'aimais beaucoup être déléguée de la classe. Donc c'était. Il y avait un vote à la. Je ne sais pas si ça se fait ici aussi,
Oui.
mais il y a un vote. Et puis moi, ce que j'aimais, c'était être déléguée de la classe. Vous serez très étonnés de le savoir.
Oui.
C'est ça. Et parce que ça me permettait d'être l'avocat de mes copains et de mes copines. Et je me souviens qu'en cinquième, donc c'est-à-dire en septième année pour ici, j'avais une copine qui arrivait du Congo. Et puis, j'ai fait face à la véritable première injustice de ma vie. Ça a été très dur pour moi. Parce que cette jeune fille qui arrivait du Congo, qui s'appelait Nell, et elle était hébergée chez sa tante, qui en fait la prostituée. Et on ne le savait pas. Et quand je l'ai su, j'ai pris mon rôle vraiment au sérieux. Et j'ai découvert ce que c'était que, à ce moment-là, être une vraie déléguée de classe. C'est-à-dire que là, il allait falloir que j'aille voir ma mère d'abord, parce que c'était elle que j'avais confiance. Ma mère était déléguée des parents d'élèves aussi. On a toujours été dans une famille qui assez engagée. Et j'en ai fait part à ma mère, qui en a fait part à une autre déléguée de parents qui était juge pour enfants, et qui a aidé Nell à repartir au Congo chez ses parents, parce que bien sûr ses parents ne savaient pas ce qui se passait à la maison. Et là, pour moi, d'être confrontée à cette première injustice en tant qu'enfant, c'est là où j'ai développé une soif de vérité et de remettre les choses à
Oui,
la
transparence.
ouais, de transparence.
C'est
Ouais,
ça.
ouais.
Oui. Alors, ça, c'est arrivé en quelle année?
Donc ça,
Vous étiez.
c'était en septième année, donc
Oui.
j'avais.
Alors, vous étiez toute jeune encore, là.
Ah oui,
On n'a
j'avais
pas
12,
beaucoup
13
de.
ans, j'avais
Non,
13 ans,
on
je
n'a pas
pense.
beaucoup d'expérience dans ces choses-là,
Non, et
là.
puis c'est vrai que je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait arriver à quelqu'un de ma classe, à une copine à moi, enfin, une copine, c'était pas ma grande amie, mais c'était. Je l'aimais bien, et puis je comprenais pas ce qui s'était passé, enfin, ce qui se passait, et puis ça a été, oui, c'était. J'avais 13 ans, mais je m'en souviens très très bien, oui.
Ouais. Comme composition d'école, est-ce que c'était une école diversifiée? Est-ce qu'il y avait beaucoup
Oui,
d'immigrants?
il y avait, je dirais pas beaucoup d'immigrants, je dirais que j'avais peut-être 10 ou 15% de ma classe qui était d'ailleurs, mais on ne se posait pas la question en fait. Je crois que c'est ça la beauté d'être un enfant, c'est qu'on le remarque pas. Je crois que c'est les adultes qui le remarquent. Alors aujourd'hui, je pense qu'avec du recul, je pourrais imaginer qu'il y avait 15% 15 ou 20% d'immigrants, mais je.
Et Bordeaux, c'est une ville qui se portait bien. Il n'y avait pas de grands bouleversements sociaux
Bon,
ou
pas
quoi
du
que ce
tout, non,
soit,
non,
là.
c'était une petite ville bourgeoise de France. C'est un petit Paris, en fait. C'est très agréable parce que c'est pas très loin de la mer. Donc, c'est une très jolie ville qui s'est encore embellie dernièrement, mais c'est une très jolie ville. Mais qui avait peut-être un côté un peu trop bourgeois pour moi. J'avais un petit j'aimais bien les choses un peu plus authentiques. Alors j'allais souvent les fins de semaine ou les vacances de Noël, de février, etc. Dans le Limousin, à côté de Limoges, dans une ferme où il y avait des chevaux. en camp de vacances.
Ouais.
Et puis, ça, c'était Odile Robert, qui était devenue une amie de ma mère, qui tenait ce camp de vacances. Et là, j'ai vu ce que c'était que l'ouverture. C'était des gens qui étaient. À l'époque, je ne le savais pas, mais elle. Et toute une partie de la de cette de des gens qui étaient nos moniteurs étaient homosexuels. Et de par je pense de par leur expérience de vie, ils essayaient vraiment de nous ouvrir l'esprit à la diversité et à l'inclusion. Et ça m'a beaucoup apporté.
Ça, c'était pendant ton secondaire, ça, j'imagine.
Oh, ça a été à partir de l'âge de 6 ans, je partais,
Ah
6-7
oui.
ans. Je partais quand il faisait trop froid pour le bateau. On était donc au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de février. On partait une semaine à la fois ou 2 semaines à la fois dans ces camps de vacances et tous les mercredis après-midi. Donc j'ai vécu avec des gens qui, sans le savoir, parce qu'à l'époque, ils ne s'affichaient pas, ils n'avaient aucune nécessité de nous parler d'homosexualité, ils n'en parlaient d'ailleurs jamais. Ça ne nous effleurait même pas l'esprit, et puis ni eux-mêmes d'ailleurs de nous en parler. Mais ils nous ouvraient la différence. Et ça, c'était important. Le mercredi après-midi, j'allais souvent là-bas. Quand j'avais, oui, c'est ça, 6-7 ans, j'imagine. 7 ans.
Alors, c'était pas loin de Porto, là.
Ah non, c'était carrément. Alors, la maison des enfants, c'était à Bordeaux. Donc, ça, c'est j'y allais. Et la directrice de la maison des enfants avait aussi une ferme dans le Limousin, où là, elle nous amenait en camp de vacances,
Oui.
avec toute une gamme de personnes qui savaient faire de la poterie, du théâtre, du cirque, de l'anglais. Donc,
Alors ça, c'était pour garçon-fille,
oui, c'est ça. C'était pour tout le monde. Et
c'était pour tout
puis,
le monde.
il y avait une très belle ambiance familiale. Jamais plus de 10, 12 enfants. Donc on était, on avait, et puis souvent on était les mêmes enfants qui revenions d'année en année et de vacances en vacances.
Puis là, il y avait un dortoir,
Oui,
j'imagine, c'est ça.
c'est
Puis
ça.
vous
Il y avait
restiez là
quelques
pour...
chambres avec quatre lits ici, quatre lits là-bas, et puis on faisait du cheval.
Oui.
On a appris à faire de l'équitation là-bas. Et puis, mon frère a fini par se marier avec une prof d'équitation de là-bas, mais bien plus tard, et à vivre là-bas.
Oui.
Donc à Limoges, à 250 km de Bordeaux.
Ouais. Votre adolescence, le secondaire, comment ça s'est passé? Ça, j'imagine que là, ici, quand on passe de l'élémentaire au secondaire, c'est une grosse transformation. Est-ce que c'est
Ouais.
la même chose en France?
Ben
Ou
moi, je
est-ce que
pense
c'est
que
la même
le.
école tout le temps?
Oui, non, ça a été une. Ça a été une transformation, je pense, plus au niveau de la 9e à la 12e année. C'était une belle. J'étais dans un lycée international, donc dans une école internationale où il y avait de toutes les langues. Mes parents m'avaient mis là-bas et j'étais vraiment contente parce que je pouvais avoir des cours en anglais, des cours en hébreu. Il y avait des gens qui parlaient dans le couloir en espagnol, en japonais, en chinois, en arabe, en hébreu, en anglais. Et donc, dans les couloirs, chacun parlait sa langue. Et ça, pour moi, ça a été une très belle réussite.
Ça aussi, c'est public
Oui,
ou... Oui,
c'était une école
comme c'est...
publique,
Oui,
tout à
c'est
fait.
ça. Et
Après, il
puis...
fallait une raison pour demander cette école. Moi, ma raison, c'était que je voulais continuer l'hébreu. Et du coup, il n'y avait que cette école-là qui offrait l'hébreu. Et ils m'ont accepté dans cette école.
Oui.
Et c'est vrai que ça a été un. Là encore, ben, c'était. Sur l'ouverture, c'était sur le. Ouais, c'est.
Et arrivé en 12e année, on doit prendre une décision. Ben, notre 12e année, vous autres,
Oui.
c'est le lycée. On doit se
Ah
diriger à quelque part. Vous êtes
oui!
allé où?
Alors là, j'ai pris. Si ma mère même avait été un peu gentille, elle m'aurait épargné la catastrophe. Je me suis dirigée en psychologie. Je rigole parce que quand on me connaît, on sait tellement que c'est pas moi la psychologie. J'ai aucunement des capacités en psychologie. Autant je suis capable d'être dans l'action. Mais alors, la psychologie, c'est un autre monde pour moi. Et puis, je ne sais pas pourquoi je me suis dirigée en psycho, je crois, parce que quand on ne sait pas trop quoi faire en 12e année, on se dirige en psycho en France.
Ah bon?
Ouais, je crois que c'est ça. Parce qu'il y avait une gang de gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient là-bas.
Ça donnait un débouché sur quoi, ça?
Sur rien du tout. Non, mais ça débouchait sur. Quand on allait jusqu'au bout, on pouvait devenir psychologue. Mais alors, vraiment, au bout de 3 mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que.
Alors, ça n'a pas été long, là.
Non, 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 non. J'ai tout de suite compris que ce n'était pas pour moi.
Ouais.
J'ai pas persévéré du tout. Et puis, j'ai décidé de faire une fac d'anglais après. Donc, je me suis dit, bon, bah, je parle couramment l'anglais, je vais faire une fac d'anglais pour être un jour prof d'anglais. Et puis, voilà. En fait, chaque fois que j'ai entrepris des études, c'était pas véritablement dans un but avoué de faire tel ou tel métier. Je me suis jamais sentie liée par un désir de faire un métier en particulier. Ça a toujours été des envies ponctuelles, et puis de me dire, tiens, en ce moment, j'ai envie de faire ça. Et d'ailleurs, ma vie entière a été ça, parce que le jour où j'ai fait mes études d'anglais et qu'on m'a dit, tiens, il y a un poste qui s'ouvre à Winnipeg pour aller enseigner à l'université pendant 1 an, est-ce que tu veux y aller? Ah ben oui, clac, et puis la décision était prise dans l'heure qui a suivi. Il m'a jamais fallu beaucoup de temps pour prendre des décisions de vie, en fait, qui pourraient
Alors,
paraître
vous
compliquées
avez
pour tout le
pris des
monde.
cours d'anglais en France pour venir enseigner l'anglais au Manitoba, c'est ça?
Non, non,
Non,
non,
non,
non,
non.
non, pas du tout. J'avais
Non.
pris des cours, donc mes études, c'était en civilisation canadienne. Donc, c'était l'histoire du Canada. Ça s'appelait pas histoire du Canada, ça s'appelait civilisation canadienne. Parce qu'on étudiait là-dedans la littérature, l'histoire, la linguistique, tout ce qui fait une civilisation, en fait. Et puis, non, le but au départ, c'était d'être prof. Je me suis dit, bon, ben, je vais être prof d'anglais, parce que j'avais adoré mes profs d'anglais, tout mon cursus. Et je me suis dit, ben, tiens, moi aussi, je vais être prof d'anglais.
Puis ça, il y a beaucoup de débouchés en France pour des
Oui,
profs d'anglais,
oui,
oui,
oui, oui,
oui.
oui. C'était pas un problème Une fois qu'on a passé le diplôme, il y a des places. Le problème, c'est que je suis arrivée devant. Après avoir fait mes études d'anglais, donc je suis venue ici 1 an. Et là, je suis repartie en France et puis j'ai enseigné l'anglais en collège et en lycée, donc c'est en secondaire. Puis là, au bout de 2, 3 ans, je me suis dit, oh my god, je m'ennuie.
Oui. Alors, parlez-moi d'un peu quand vous êtes venu ici la première fois.
En 2003,
Oui.
je suis arrivée le 19 août 2003. Et puis, je suis arrivée ici et j'ai descendu l'escalator du vieil aéroport de Winnipeg. Et là, j'ai eu quelque chose qui me. Je me suis dit, tiens, je suis bien. Il y avait une lumière qui rentrait dans cet aéroport, et pourtant il était moche, comme pas
Oui.
possible. Et malgré ça, je suis arrivée et j'étais bien. Impossible d'expliquer pourquoi. Et le jour même, je suis allée à l'université du Manitoba pour trouver un appartement, parce que je savais qu'il y avait des listes d'appartements. Et j'ai trouvé une colocation à River Heights
OK.
avec quelqu'un qui faisait un post-doctorat en microbiologie, un catalan en fait. Ce qui est étrange, enfin ce qui est rigolo, parce que toute ma vie à partir du moment où j'ai mis les pieds au Manitoba m'a rapprochée de la famille de mon père que je n'ai jamais connue. Parce que mon père, sa mère était catalane.
Les gens n'étaient pas dans ça.
Oui, des gens indépendants, pas à peu près. Et puis, c'était assez drôle parce que j'avais passé tout le premier pan de ma vie à ne rien connaître de la famille de mon père. Et tout d'un coup, j'arrive ici, et puis c'est maintenant que je le vois avec le recul, toute ma vie pivote autour de la Catalogne. Donc, ma première expérience, c'est j'arrive dans cette maison et je vois Chabi qui est catalan et qui devient mon colocataire. Donc, première année, je suis à l'Université du Manitoba, j'enseigne le français, pas l'anglais, j'enseigne le français. Et puis, je savais que c'était pour jusqu'au mois d'avril et qu'après, je repartais en France. À l'époque, je vivais en couple en France avec un Africain depuis quelques années. Mais je m'étais dit qu'il était temps que je fasse un séjour ailleurs là, pour savoir ce que j'allais faire de ma vie et puis savoir si vraiment j'étais avec la bonne personne.
Ouais.
Et puis, je suis arrivée ici, donc je suis en colocation avec Jabi, qui est super, super sympa. Il me présente des amis à lui qui sont dans le milieu de la microbiologie, qui ont tout un autre âge. Et là, je découvre l'amitié intergénérationnelle, en fait, au Manitoba. En France, j'étais amie avec des gens qui avaient à peu près mon âge. Et puis là, tout d'un coup, j'arrive ici et puis je commence à rencontrer des gens qui ont 50, 60, 65, 70.
Et vous aviez quel âge là, à ce moment-là? C'est,
25.
C'est 25, à peu près. Oui, c'est ça.
Oui, 25 ans. Et donc ça a été un tournant aussi au niveau de mes amitiés. Et puis, donc j'arrive ici, je passe une année ici. Et là, je me régale. Je me régale de voir la gentillesse des gens, de voir ce grand soleil tout le temps, alors qu'il fait froid. De voir un aspect très paisible aussi. J'aimais beaucoup le côté paisible des gens et du rythme. C'était pas le même rythme qu'en France. J'ai été séduite par ce rythme-là. Parce que...
Mais vous n'êtes pas venu ici. Moi, si je recommandais à des gens de la France de venir au Manitoba, je ne les enverrais pas à l'Université du Manitoba pour faire connaître les francophones, etc.
Ah, mais je n'étais pas du tout venu pour connaître les francophones.
C'était un autre monde, là.
Ah, mais c'est simple.
Parce que même les gens de Saint-Boniface, on ne connaît pas beaucoup l'Université du Manitoba, ce milieu-là.
On
a des amis ici et là.
Mais... C'est même pire que ça. C'est que dans ma première année ici, je n'avais pas foutu les pieds à Saint-Boniface. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on me dit « Ah, mais tu sais, il y a un quartier français. » Mais non, mais je l'ai évité, le quartier français. Parce que dans ma tête, un quartier français, c'était retrouver les Français. Et la mentalité qui allait avec. C'est-à-dire le côté très raide, très, très difficile, très...
Insulaire, peut-être, aussi?
Pas tellement. Je dirais pas insulaire, mais assez, comment dire, revendicateur, dur. Bon, et puis, je pense que si j'ai aimé le Manitoba, c'est que quelque part, j'avais envie aussi de prendre un break de cette baignoire-là, quoi.
Alors, l'Université de Manitoba, c'était un mélange de cultures, là, finalement.
Pareil, oui, ça j'ai aimé.
Puis c'est finalement ce qu'est le Manitoba ou
Absolument.
Le Canada, hein,
oui.
Mais en plus petit.
Oui, parce que je faisais des fêtes à la maison, et puis là, j'ai découvert la musique celtique. Alors, je m'étais liée d'amitié avec des gens qui avaient pas du tout mon âge, mais qui faisaient un groupe qui s'appelait Marty's Party, avec un monsieur dont avec lequel je suis encore amie aujourd'hui, qui s'appelle Al, qui a 65 ans, qui joue du bagpipe, avec des Cubains aussi, qui jouent encore de la musique ici à chez Infernos, sur Academy. Et puis j'ai baigné dans le milieu de la musique, qui finalement est un milieu que je connaissais pas. Et j'ai découvert à quel point la musique était quelque chose pour moi que j'aimais beaucoup plus que ce que je pensais. J'avais pas été très sensible à la musique avant. J'avais un père qui écoutait beaucoup de musique du monde, mais pas plus que... Enfin, je veux dire, qui était pas musicien. Ma mère n'était pas musicienne. Dans ma famille, il n'y a pas de musicien. Donc, j'ai pas grandi avec la musique plus que ça. Et là, tout d'un coup, je me rends compte que j'aime vraiment ça, la musique et les instruments, et voir les gens qui... Et je le découvre ici aussi. Et ça fait partie du charme que j'ai retrouvé ici et que j'ai eu envie de retrouver quand j'ai quitté le Manitoba pour repartir en France.
Et puis les gens que vous avez fréquentés cette année-là, je ne sais pas si la question est bonne, mais est-ce que c'était des gens qui venaient surtout d'ailleurs
Ah
ou des
oui.
Manitobains de souche là, qui sont ici depuis toujours,
De tout.
comme oui,
De tout.
un petit peu depuis toujours?
C'est-à-dire que je pourrais parler de mon ami Al qui arrivait de. Donc Al qui est celui qui joue du bagpipe, qui lui arrivait d'Angleterre, de Newcastle. Je pourrais parler d'amis cubains, mais aussi de Michael Gousseau qui a joué une grande. Qui a été vraiment une belle personne et qui est lui, qui était manitobain de souche. Je pourrais penser à qui d'autre. C'était de tout en
Oui,
fait.
c'est ça.
Ouais.
Et puis c'était une année qui s'est passée très très vite, là,
Ah
j'imagine.
oui.
Parce que vous aviez quand même à apprendre à enseigner. Vous n'aviez pas enseigné vraiment beaucoup avant.
Non, j'avais pas enseigné beaucoup. Enfin, j'avais
Oui,
enseigné un petit
puis.
peu parce que en France, j'enseignais aux adultes pour me faire des sous pendant mes études. J'enseignais l'anglais à des hommes d'affaires, surtout au niveau du gaz de Bordeaux. C'était la société de revente de gaz et aussi à la cellule interrégionale d'épidémiologie qui dépend du ministère de la Santé, etc. Et du coup, j'avais enseigné, mais
Mais vous n'aviez pas une formation en enseignement
non, pas
comme
du tout.
telle.
Non, pas du tout.
Alors, on est arrivé ici, on vous a dit,
C'est ça.
tu vas enseigner un cours de
Oui,
français,
c'est ça.
tu as ouvert le livre, et puis,
C'est ça. C'était vraiment pas compliqué, là.
c'est pas compliqué.
Non.
Et puis ça s'est bien passé. Et puis, c'était
Ça
quel
s'est très
genre?
bien. Ça
Ça,
s'est bien
c'était des
passé.
anglophones qui voulaient apprendre le français, c'est ça?
Oui, principalement, mais j'ai trouvé que le niveau était vraiment assez bas. Quand on arrive de la France, où les études sont gratuites, il faut qu'il y ait un tri, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de trier les gens qui arrivent en université. Et la seule façon de le faire, puisque c'est pas l'argent, c'est les notes. Donc, c'est très sévère. Au niveau de la notation, le niveau qu'on demande, etc. C'est quand même assez. Alors moi, je suis arrivée ici, je pensais que j'allais avoir des élèves qui allaient avoir le niveau.
Qui parlait un petit peu de français.
Ben, c'est-à-dire que quand on arrive en université d'anglais en France, on parle carrément couramment l'anglais. On n'arrive pas à la fac d'anglais à Bordeaux sans parler l'anglais. Donc c'était déjà pour ceux qui parlaient carrément couramment ou quasiment couramment qui pouvaient aller là-bas. Et là, je me retrouve avec toute une gang de jeunes qui vraiment baragouinaient le français, quoi. Et là, je me disais, mais oh mon Dieu, je vais m'ennuyer. Et au niveau des cours, je me suis ennuyée, pour être tout à fait franche.
Puis, c'est un cours probablement. Ah, j'ai besoin de prendre un cours facultatif, et puis peut-être que
Possiblement.
ça va être assez facile. Et
Possiblement. Et
puis.
puis vraiment, j'étais pas faite pour l'enseignement. Je m'en suis rendu compte très vite. Parce que tout simplement, j'avais vraiment envie d'être dans un métier où on allait me challenger. Et je ne le trouvais pas du tout dans l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, quand c'était en secondaire, quand j'enseignais en secondaire, j'avais l'impression de faire de la discipline. Quand j'enseignais en fac, j'avais l'impression que bon, bah, je donnais mon cours et à la fin, on me recrachait mon cours et puis j'avais pas de gens qui s'astinaient avec moi. Ce qui est le contraire des journalistes ici, par exemple. Ils aiment s'astiner.
Là, je sais. Alors, cette année-là, c'est quand même terminé assez bien.
Super bien.
Oui.
Ça s'est terminé tellement bien que je suis rentrée en France.
Et puis là, quand vous êtes venu, est-ce que vous aviez un visa très spécifique que vous devez passer quelques mois ou c'est un visa
Non,
ouvert?
non, c'était pas un visa ouvert. Il fallait que je rentre au bout d'une année.
OK.
Donc, je suis rentrée en France parce que entre-temps, la personne avec laquelle je vivais a eu une méningite. Donc, il a été assez gravement malade. Et au lieu d'étendre mon séjour jusqu'au mois d'août, comme j'aurais pu le faire, je suis rentrée tout de suite à la fin des cours au mois d'avril pour le revoir.
Alors, ça a été une année assez courte, là.
Oui, c'était d'août à avril, donc c'était
Oui,
9 mois réellement.
9 mois, vraiment l'année universitaire.
Ouais, mais assez longtemps quand même pour me donner l'envie de revenir ici
Oui.
et de vivre ici.
OK. Vous êtes retourné en France, et bien évidemment, votre première préoccupation, c'était cette personne-là. Mais
Oui.
alors là, comment ça s'est passé?
Ben, je suis rentrée en France et puis là, j'ai réalisé que je ne voulais plus faire d'enseignement. Je l'ai fait parce qu'il fallait que je vive, donc je l'ai fait pour gagner mon pain. Mais j'étais vraiment dans un questionnement de ce que j'allais faire dans ma vie. Et ça, c'était une période assez désagréable parce que c'est là où j'ai vu la porte de la France se fermer, en fait. C'est-à-dire que ce qui m'a vraiment blessée, c'était de voir qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas ouvrir leur esprit sur les possibilités que je pouvais apporter dans une entreprise. Pour eux, quand on avait fait des études d'anglais, il fallait qu'on soit prof d'anglais. Quand on a fait des études de physique, il faut qu'on soit prof de physique. Quand on a fait du droit, il faut qu'on soit avocat. Quand on a fait l'école de magistrature, il faut qu'on soit juge. En France, on prend un cursus scolaire, puis après, on est pogné avec jusqu'à la fin de sa vie, grossièrement.
Alors, est-ce que vous avez senti que c'était différent ici?
Ah oui, complètement. Ah oui. Ça a été un choc assez important parce que quand je suis allée faire des bilans de compétences en France, je voyais bien que j'avais des aptitudes dans d'autres domaines que l'enseignement. Et je n'étais pas motivée par l'enseignement et je n'avais pas envie d'être une de ces profs qui allait cracher ma matière pour rentrer à la maison et puis pas être ennuyée. Non, j'avais envie de trouver un métier passion. Et dans ces 2 années-là, j'avais découvert un groupe de gens qui se rencontraient pour parler de journalisme et de désinformation.
Ah, ok, c'est là que c'est commencé.
Ouais. Donc ça, c'est entre 2004 et 2006. Et tous les dimanches matins, je partais faire 4 ou 5 heures de discussion d'analyse de textes journalistiques avec tout un groupe de personnes. Donc il y avait des psychiatres, des linguistes, des journalistes,
C'était un groupe informel, c'était
un
pas une
groupe,
école, là, ça.
pas du tout, c'était un groupe informel, c'était au Centre culturel juif. C'était des gens qui avaient envie de se retrouver, et puis d'ailleurs il n'y avait pas que des juifs du tout, il y avait, je crois que les 3 quarts de la salle n'étaient pas juifs, mais des gens qui avaient envie de se retrouver autour des médias, de la presse, de la désinformation, de l'information. On faisait venir des gens comme Bernard-Henri Lévy, donc des journalistes, écrivains, philosophes. On faisait venir des linguistes, on faisait venir tout un tas de personnes qui allaient nous donner des conférences et puis après débattre, on allait débattre avec eux de sujets qu'on avait en main. Et ça, je me suis découvert une passion ici. J'ai découvert que j'aimais vraiment être dans cette recherche et dans la discussion et dans l'échange d'idées et puis dans le défi, dans relever des défis
Oui,
pour un éclaircissement en fait, pour
c'est
des
ça.
éclaircissements et pour la vérité.
Oui.
Oui, j'étais en véritable quête de vérité et d'authenticité. Et ça a allumé quelque chose chez moi pour le journalisme.
Est-ce que vous vous êtes inscrite à des cours de journalisme par la suite
Non,
ou
parce que
non?
encore une fois, en France, c'est compliqué. On ne devient pas journaliste comme ça. On ne peut certainement pas faire une demande pour être journaliste. Comme ça, il faut effectivement s'inscrire dans des cours. Puis là, c'était reprendre toutes ses études. Et puis, j'étais pas à un moment de ma vie où je pouvais le faire. Et puis, quand j'ai vu que qu'il allait falloir reprendre toutes les études, qu'il n'y avait pas d'équivalence possible, que tout allait être compliqué, que je me suis dit, c'est pas grave, de toutes les façons. Je pense ne pas rester ici et j'irai dans un pays où on peut donner sa chance aux autres. Et j'avais vécu le Canada, donc je savais que c'était une possibilité là.
Alors là, quand est-ce que la décision de revenir au Canada s'est prise? Est-ce que c'était dans ces 2 ans-là ou...
Oui, pendant ces 2 ans-là, je savais que je voulais revenir. Je suis revenue. Pendant ces 2 ans-là, je savais que je voulais revenir.
Et vous avez fait quoi pendant ces 2 ans-là, à part ben, vous avez participé à ces discussions-là, mais vous gagnez sa vie, vous continuez
J'enseignais.
d'enseigner. Oui.
J'enseignais.
Oui.
J'enseignais au GAS de Bordeaux, j'enseignais à la cellule interrégionale d'épidémiologie, j'enseignais en collège et en lycée. Je... C'est ça, c'est ça que je
Oui.
faisais. Et puis je gagnais bien ma vie, et puis ça me permettait d'aller faire du cheval le samedi, d'aller à mon, à mes conférences le dimanche matin, de voyager un peu.
C'est ça. Alors, mais c'était pas assez
Non,
au
c'est
bout
ça.
des 2 ans.
Non, c'est
Alors,
ça.
qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là?
Au mois d'août 2000, 2006, j'ai un cousin qui est mort en Israël. Il était pilote d'un hélicoptère qui a été abattu par le Hezbollah. Et puis, et là, ça a été très difficile parce que j'entendais une information vraiment tronquée, qui avait du mal à expliquer la situation géopolitique d'Israël. Et puis, et j'étais devenue en colère, en fait. J'étais vraiment devenue en colère. Parce que je ne comprenais pas comment on pouvait relater Israël sans expliquer que Israël, c'est un confetti au Moyen-Orient. C'est un pays qui est gros comme
Oui.
deux départements français. Et pour que cet État-là survive, il y a des points stratégiques. Et ça ne voulait pas dire que je défendais toutes les actions de l'État israélien. Mais je me disais qu'il y avait quand même une grosse partie de l'information qui manquait. Et puis quand mon cousin est mort, j'ai eu des discussions avec des amis qui m'expliquaient que finalement, bon, bah, c'était mérité, quoi. Et puis bon, pour eux, je comprenais le mot mérité, c'est-à-dire qu'il était dans l'armée, et puis il était pilote d'hélicoptère, et puis il cherchait ça, mais... Je pouvais pas entendre ce discours-là. C'est un discours qui est émotionnel, et puis c'est un, je pouvais pas le prendre autrement de toutes les façons, parce que au bout d'un moment, ben, on a sa partie de jugement qui s'enlève quand on a affaire aux émotions. Okay. Puis là, j'étais devenue dans la partialité la plus totale, et puis à défendre des actions que j'aurais trouvées indéfendables avant. Et puis quand j'ai commencé à changer mon sentiment, puis mon éthique, et puis à ne vouloir voir qu'une seule partie de l'image avec une seule lunette, je me suis rendu compte que j'étais dans un mode de défense terrible et qu'il fallait que je parte de là. Et que j'allais vivre mon judaïsme ailleurs. Même si j'étais pas religieuse, je me sentais juive culturellement très fortement, et j'avais pas envie de me sentir en état de défense. J'en étais venue à vouloir presque être religieuse alors que vraiment ça me ressemblait pas du tout, mais pour faire un point. Or, c'est je voyais bien que j'étais dans un engrenage qui ne m'aurait pas rendue heureuse. Et puis la France était devenue particulièrement antisémite. Et puis il y avait des attentats, il y avait un ami de la famille qui est rabbin qui s'était fait cracher dessus. Moi, je pouvais pas aller à une entrevue d'embauche avec la Magen David parce que ça se fait pas. Donc j'étais vraiment dans une espèce de tourbillon qui était super négatif. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais sortir de ce tourbillon-là, et puis je vais partir dans un pays où on accepte la différence et on encourage la différence, et où je ne serai pas en train de justifier les actions d'Israël. Voilà. Je pourrais vivre mon judaïsme comme je le veux, religieux ou pas religieux, culturel ou pas culturel, whatever, mais au moins où je ne serai pas en train de me positionner en tant que juive pour être à contre-courant d'une pensée qui me fait du mal. Donc,
Et vous aviez vu cette ouverture-là au Canada.
absolument. Oui, je voyais que les gens pouvaient être, ils pouvaient être policiers et avoir le turban sikh sur la tête. Ils pouvaient être, on pouvait, je pouvais être à la banque et avoir quelqu'un qui me servait avec le voile. Je me suis dit, ok, mais c'est là-dedans que je veux vivre. C'est pas J'ai pas envie de vivre une société où tout le monde se ressemble Et c'est le règne de de l'athéisme le plus total, ou j'avais plus envie.
Alors, vous êtes revenu ici?
Je suis revenue ici en novembre 2006. Et là, je suis arrivée chez. En fait, je suis arrivée dans une maison sur Oxford Street, à River Heights, d'un ami qui est aveugle, qui a environ 65 ou 70 ans, Dave, de son épouse et de toute une gang de gens qui vit là-bas, qui tournent autour de la musique, en fait. Et donc, je leur louais une chambre là-bas. Et pendant ce temps-là, j'ai tout simplement passé beaucoup de temps à lire. Donc j'allais au Starbucks ou à la maison, et je passais des heures à lire, à lire, à lire, à lire. Je dévorais des tonnes de bouquins pendant ces mois-là. Et en février, j'ai contacté une dame de la communauté juive. Parce qu'on m'avait dit que la communauté juive allait pouvoir m'aider à immigrer. Et donc, je suis allée les voir, et puis ils m'ont dit, tu sais, Sophie, nous, on peut t'aider à immigrer, mais je pense que ta place est dans la communauté francophone. Parce que tu ne nous quitteras pas, tu es juive, tu te sens juive, tu vivras ton judaïsme, mais là où tu as le plus de chances de faire ta vie, c'est la communauté francophone. Alors moi j'ai dit, ah ben non, et ils m'ont dit si, si, en plus au niveau de l'immigration, ça sera plus simple si tu es francophone que juif, parce qu'on n'a pas de passe-droit alors que les francophones, ils ont des cibles à atteindre et tu vas faire partie de ces cibles-là. Et donc Leslie Wilder, cette dame, me dit, appelle de ma part la directrice du CEDEM, qui s'appelle Mariette Muller. Donc me voilà partie voir rencontrer Mariette Muller. Et puis je passe 2 heures avec elle. Et puis je vois un soleil. Un
Oui,
soleil.
Mariette, très accueillante là.
Ah oui, mais alors vraiment, je me suis dit, ok, c'est ça. Et là, Mariette, elle me dit, oh, écoute, on ne peut pas te perdre. Il faut que tu restes. Laisse-moi passer quelques coups de fil. Elle me dit, qu'est-ce que tu aimes faire? Je dis, ben, j'aime faire plein de choses, mais... Surtout, ce que j'aime, c'est le journalisme. Elle me dit, oh, bouge pas. Elle prend son téléphone. Ta 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 ta. Ah, Sylviane. Bon, c'est Mariette. Comment ça va? Ça va bien. Bon, regarde. J'ai une petite fille, là, dans mon bureau. Faut que tu la vois. Puis, il faut vraiment que tu la rencontres parce que faut qu'on la garde. Alors, Sylviane, elle dit, ouais, mais j'ai pas de poste à pourvoir en ce moment. Mais dis-lui quand même de passer me voir. Donc me voilà arrivée dans le bureau de Sylviane Lantier, qui à l'époque était directrice et rédactrice en chef de La Liberté sur le boulevard Provencher. Et je me souviendrai toute ma vie de ce jour-là, parce que c'était en février, et j'avais acheté une petite voiture, une Suzuki, qui avait des trous dans le plancher. Et puis, je l'avais lavée pour qu'elle fasse propre pour aller à mon entrevue de... Et puis j'avais pas réalisé qu'en la lavant la veille, elle allait que les portes allaient forcément se bloquer.
Oui.
Et puis là,
Bienvenue au Canada.
Ah mon Dieu. Et là, j'arrive pour rentrer dans la voiture le matin, impossible d'ouvrir la porte du passager ou du conducteur, et je suis rentrée par le coffre. Et je suis descendue sur le stationnement de la maison franco-maïtobaine par le coffre pour ma première entrevue. Je me suis dit, c'est pas une bonne façon de rentrer. Et là, j'ai rencontré Sylviane, qui m'a dit tout de suite qu'elle n'avait pas de poste. Et à la fin de cette entrevue, elle me dit, écoute, j'ai pas de place, mais je vais t'en faire. Voilà. Et puis, elle me dit, elle m'a mise à la vente. Et à la correction de texte. Et puis, ça n'a pas pris trop trop longtemps pour qu'elle me dise, écoute, tu vas être mon adjointe, rédactrice adjointe. Et puis, je vais te former parce que je pense que un jour, tu pourrais prendre le relais. Et puis, elle a passé 2 ans à me former. Et en novembre 2009, donc 2 ans exactement après mon arrivée au Canada, je devenais directrice et rédactrice en chef de La Liberté.
OK. Parce que moi, j'avais l'impression on fait des échanges avec la France pour des journalistes. Je pensais que tu étais arrivé comme ça.
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
Non, c'est Sylviane Lantier qui m'a donné ma première chance.
Et puis, tu n'avais pas été journaliste.
Jamais.
Jamais.
Non.
Mais c'était quelque chose que
J'aimais le journalisme.
tu l'as appris sur le tas
C'est
très,
ça.
très rapidement,
Avec Sylviane.
avec Sylviane. Alors, rencontrer ces deux femmes-là, tu devais te dire, tout va bien au Canada, là. Mais t'as pas rencontré n'importe qui, là.
Mais je ne savais pas à l'époque. Je ne savais pas que je n'ai pas
Non,
rencontré
mais c'est.
n'importe qui, mais c'est vrai que je leur dois beaucoup parce que elles m'ont donné, elles ont toutes les deux cru en moi rapidement et elles ont tout de suite vu un potentiel rapidement. Et puis c'était pas en fonction de qui je connaissais ou qui. En France, c'est beaucoup quand on arrive à ouvrir des portes comme ça, c'est parce qu'on est la nièce d'un tel
Oui.
ou le fils d'un tel. Là, c'était vraiment. C'était moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était de. Qu'est-ce que moi, je suis capable d'accomplir avec mes compétences, avec mes qualités. Et puis elles ont tout simplement vu quelque chose
Ils ont ouvert
qui
la
a.
porte.
Oui, c'est ça. Et elle m'a ouvert la porte.
Et puis, c'est ça. T'en as.
J'en ai profité
T'en es profité.
pour m'épanouir et puis me dire, OK, mais la porte est ouverte, je vais leur montrer qu'elles n'ont pas misé sur le mauvais cheval.
Est-ce que. Ben, je pense pas que le mot est bon, mais est-ce que ça a été difficile au début, là? C'est quand même quelque chose d'assez complexe à apprendre, le journaliste, parce qu'il faut apprendre à faire le métier, puis il faut apprendre à connaître la communauté, il faut apprendre toutes sortes de choses. Est-ce que c'était un tourbillon, là, au début?
Ben, pas, enfin, je dirais que moi, je n'ai pas vraiment touché au journalisme. J'ai écrit un ou deux articles, vraiment, mais j'ai corrigé les textes des journalistes. Et puis, ça, j'avais eu l'habitude parce que, avec toutes ces matinées passées à la critique de journal à la critique d'articles journalistiques, etc., j'avais développé, parce qu'il y avait aussi des journalistes à l'intérieur de notre groupe, j'avais développé des réflexes de critique, de vérification de faits, d'éthique journalistique, de ce qu'on n'écrit pas. On est redevable auprès de qui? Est-ce que je suis redevable à mon conseil d'administration pour ce que j'écris dans le journal ou est-ce que je suis redevable à mes lecteurs? Est-ce que l'indépendance journalistique, ça veut dire quoi? L'objectivité journalistique, ça veut dire quoi? Est-ce que ça existe, l'objectivité journalistique? Ou est-ce qu'on parle d'honnêteté journalistique? Toutes ces questions-là, je les avais vraiment intégrées au plus profond de moi. Et puis, je suis arrivée avec la plume de la correctrice. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été dans une courbe d'apprentissage trop grosse au niveau des règles journalistiques. Ma plus grosse courbe d'apprentissage, ça a certainement été le vocabulaire. Ça a été la façon dont fonctionnait une entreprise ici. C'est-à-dire que j'ai appris qu'on pouvait avoir du plaisir à travailler en équipe dans une entreprise et que l'autorité n'était pas forcément de l'autoritarisme. Et c'est au Canada que j'ai appris à faire la différence entre autorité et leadership. En France, on n'a pas tellement ce concept-là, ce qui est très dommage. C'est qu'un patron a pas mal tous les droits. Hein. C'est assez. On peut piquer des grosses colères et puis crier très fort. Et puis ici, on passe enfin, vraiment pour un singe, enfin, pour un clown ou pour
Oui,
un
c'est
animal, quoi. Si on fait ça, on passe pas pour quelqu'un de civilisé, quoi. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que ben, j'avais tout ça à apprendre, de la culture organisationnelle canadienne. Et puis ça a été extraordinaire.
Et puis Sylviane était là depuis longtemps, alors elle avait beaucoup
Oui.
de contacts, elle avait beaucoup de savoir-faire aussi, je
Elle avait beaucoup
pense.
de savoir-faire. Et puis c'est surtout que comme j'étais à la vente aussi, il ne faut pas oublier que
Oui.
je faisais beaucoup de ventes à l'époque, j'avais appris à connaître tous les organismes et leurs mandats. Parce que j'allais les rencontrer pour faire de la vente. Donc de publicité, de cahiers bicolos, de cahiers spéciaux. Enfin donc du coup, j'avais développé des contacts humains avec beaucoup de gens. Et puis j'aime les gens. Et du coup, ça n'a pas été très difficile à percer parce que les gens m'ont ouvert très vite leurs portes.
Est-ce que la mentalité manitobaine ou franco-manitobaine, on a nos particularités, là, comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses qui sont surprises là-dedans?
Ah oui, moi ce qui m'a surprise, c'est la capacité d'être en colère sans le montrer.
Ah bon?
Ah oui, ça pour moi c'est encore un mystère. C'est-à-dire En France, c'est beaucoup, dès qu'on n'est pas content, on le dit, on l'exprime, ça sort. Et ici, ce que j'ai vu, c'était beaucoup de joie parce qu'on accepte l'autre, on ouvre sa porte, etc. Mais en même temps, c'était assez étonnant de voir qu'il n'y avait jamais de manifestation. Ni dans les rues, ni de manifestation de colère, ni de manifestation de regarde, on va se poigner droit dans les yeux, puis on va se parler franchement là, tu sais. Ça se fait pas. Ça se fait pas.
Non, non.
Et puis, ça a été un très gros apprentissage parce que je me suis dit, bah, tiens, c'est rigolo. Les gens me parlent de telle chose et telle chose, ils ont l'air en colère, mais quand vient le temps de l'exprimer, ils ne l'expriment pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'expriment pas? C'est quoi le Qu'est-ce qui se passe derrière? Et puis, ce que je crois avoir compris, c'est qu'en fait, le Canada a bâti sa réputation et son identité sur le peacemaking. C'est peacemaker. Et puis la diplomatie. Et puis.
Mais aussi, il y a tout le contexte minoritaire. On arrive en France, on est majoritaire. On arrive ici, on est
Non, mais
minoritaire.
chez les Anglos, c'est pareil.
Ah,
Les
oui.
anglophones ont ce côté aussi.
Oui.
J'ai pas vu beaucoup de débordements.
Ah non, mais les anglophones, même en Angleterre, c'est un peu comme ça, je pense. C'est
Mais en Angleterre, ils vont se battre dans les bars, ils vont se dire,
Oui.
ils vont s'envoyer paître
Oui.
facilement. Mais là, je voyais tout le monde poli avec tout le monde. Alors quelque part, c'était très rafraîchissant, très très agréable. Et puis à un moment donné, on se dit, mais c'est quoi finalement? Qu'est-ce que les gens pensent vraiment? Et ça a été un ajustement parce que je me suis dit, ben, il va falloir que j'apprenne
Oui.
à être moins expressive dans mes conversations ou dans mes remarques. J'y arrive pas toujours, mais c'est.
Mais est-ce que tu sens que, bon, tu as un problème à aborder avec quelqu'un, on n'en parle pas,
Ouais.
mais quand tu l'abordes, que les gens s'ouvrent à ce moment-là, ou est-ce que c'est encore, il y a une réticence qui sort de ça? Parce
Mais.
que souvent, ce qu'on entend, c'est j'ai été patron un peu, et puis, oui, mais tu ne me l'as jamais dit. Alors.
Oui.
Alors, on n'avait pas besoin d'en parler. Est-ce
Ah
que
oui.
c'est un petit peu ça que tu as vécu ou que tu vis présentement?
Bah, moi, j'ai été tellement surprise de cette différence de communication que j'ai fait appel à quelqu'un qui était spécialisé là-dedans pour mon équipe. C'est-à-dire que j'étais tellement dans le dans la dans la dans la, la le questionnement par rapport à comment m'adresser aux gens que j'ai fait appel à quelqu'un de l'extérieur pour lui demander de venir me faire une formation sur comment je devais m'adresser aux gens à l'intérieur de mon équipe pour garder une bonne entente. Parce que le but, c'est pas de venir choquer le monde.
Non,
Comme
non.
je voulais pas choquer le monde. Mais j'avais l'impression que même quand je disais des choses simples, mais assez franches, elles pouvaient être mal prises. Et ce que je ne comprenais pas, parce que je me disais, mais moi j'aimerais qu'on me le dise.
Oui.
Mais là, cette personne qui nous a fait cette formation, elle nous a dit, la chose la plus fausse que l'on peut dire, c'est je veux que les gens s'adressent à moi, que je m'adresse aux gens comme j'aimerais qu'ils s'adressent à moi. Il n'y a rien de plus faux. Et ça, je m'en suis rendu compte que en arrivant au Canada, il allait falloir que si je voulais réussir à l'intérieur de la liberté et à gérer une équipe qui était diverse, il allait falloir que j'adopte le mode canadien, que je ne pouvais pas arriver avec le mode français.
Ouais.
Et pour faire tourner la machine, là.
Alors, c'est moins autoritaire ici.
Oui.
C'est plus consensus.
C'est plus consensus, et puis c'est dans la façon d'aborder les problèmes. On ne les aborde pas pareil.
Mm-hmm. Oui.
En France, on peut dire, dis donc, c'est quoi ce truc pourri, là, que t'as... Non, ici, c'est pas comme ça. Parce qu'on vexe la personne et puis c'est vu comme du boulet. Enfin, c'est mm-hmm. comme de... Alors qu'en France, c'est vu comme de la franchise. Donc, ouais. il a fallu que je m'ajuste à ce niveau-là. Ça a été la plus grosse courbe d'apprentissage. Ça n'a pas tellement été le journalisme ou le... Ça a été la communication.
Ouais. Pour revenir à l'esprit minoritaire, est-ce que tu l'as senti chez les Manitobains? Je veux dire,
oui.
Notre société a beaucoup changé depuis 30 ans. Là.
Oui.
Mais moi, quand j'étais jeune, on était carrément minoritaire. On n'avait pas d'école, on n'avait pas toutes ces choses-là. Tu gardais ta place et puis il y a des séquelles à ça. Là. On traîne ça toute notre vie. Est-ce que tu l'as vu en étant quelqu'un de l'extérieur? Il disait, ben, pourquoi
oui.
on ne fait pas ci? Fait ça. C'est parce qu'il y a une réticence. Il y a eu des rejets dans le passé.
Oui. Ouais. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu et puis... Je me demandais pourquoi, en fait, pourquoi il y avait un quartier francophone? Pourquoi est-ce que les gens avaient besoin de se définir comme franco-manitobain? Pourquoi est-ce qu'on n'était pas manitobain tout court?
Mm-hmm.
Et je parle français, by the way. Comme,
ouais.
Et puis, il y avait tout un... Comment dire le côté minoritaire... Je le ressentais en même temps assez fort. C'est quelque chose qui m'a touchée, en fait, plus que choquée. Parce que je comprenais la nécessité de battre, de contrecarrer l'assimilation. Parce que moi, en France, j'avais vécu dans un milieu majoritaire, mais il faut se rappeler que j'étais juive.
Mmh.
Et je sentais le côté minoritaire. Donc, j'ai été élevée aussi avec ma mère qui essayait de tout faire pour que l'on garde notre culture et notre identité juive.
Mm-hmm.
Très forte. Malgré un mariage mixte,
mm-hmm.
Interconfessionnel, malgré le fait qu'elle n'était pas religieuse. Donc, elle s'est vraiment battue pour que l'on garde cette identité juive à cœur. Quand je suis arrivée ici, j'ai juste eu à transposer le sentiment de devoir sauvegarder cette identité juive à sauvegarder cette identité francophone.
Mmh.
Et donc, j'ai eu tout de suite beaucoup d'empathie et j'ai ressenti quelque chose, une connexion très forte avec les franco-manitobains qui s'étaient battus pour garder le français vivant. Et ça, j'ai... Donc, même si j'ai vécu la majorité francophone, je ressentais ce que c'était que d'être minoritaire.
On est dans une... Je ne peux pas dire peut-être une boîte, là.
C'est ça.
Une catégorie.
Oui, et puis il faut être plus convaincu que convaincu pour garder le minimum et le transmettre.
Mmh.
C'est-à-dire que pour que je puisse transmettre à mes enfants cette culture-là, il faut que je leur démontre. Il faut que je fasse plus d'efforts encore que ce que je que la moyenne pour qu'ils aient le minimum et que eux-mêmes le transmettent à leurs enfants. Donc ça je le voyais bien, j'étais très très au courant de ce mécanisme là puisque même si je l'avais jamais décortiqué avant comme je le décortique aujourd'hui dans le journal, je le ressentais fortement. Donc j'ai pas eu beaucoup de misère à ressentir ce qu'il fallait faire et l'importance de ça.
Okay. Alors, vous êtes devenue directrice de la Liberté. À un moment donné, vous avez dû prendre la décision, je vais m'établir ici.
Oui.
Et puis, votre ami à River Heights, vous avez conseillé, bon, passer par la petite porte francophone et puis ça va aller mieux. Est-ce que comment ça s'est passé tout ça?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, la décision d'immigrer au Canada, de demander la citoyenneté canadienne,
Mais
etc.
ça s'est passé assez naturellement. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'avais un PVT, un permis vacances-travail. Très vite, j'ai demandé à Mariette Muller de me rentrer dans le système avec Brigitte Léger pour devenir résidente permanente. Et en 2009, j'ai eu la résidence permanente. Donc, ça a été assez simple parce qu'elle fait un travail formidable. Brigitte Léger, à ce niveau-là, elle connaît ses dossiers à fond. Et je suis vite devenue résidente permanente. Et j'ai eu la citoyenneté en 2014. Donc, pas très. Ouais.
Alors, c'était pas des démarches que vous deviez faire en
Non, pas
France.
du tout.
Vous avez tout fait ça ici.
Oui.
Vous aviez des gens compétents
C'est
qui
ça.
s'occupaient du dossier,
Oui.
qui vous donnaient de bons conseils. Alors, ça s'est bien passé
La
finalement.
seule démarche que j'ai faite en France, réellement, c'est entre novembre 2006 et février 2007, quand Sylviane Lantier m'a dit je t'engage, je suis repartie en France, j'ai passé 48 heures en France à Paris, et je suis allée chercher un visa à l'ambassade qui était le permis vacances-travail. Voilà, donc j'ai passé 48 heures et hop, je suis repartie.
Et puis, ça s'est fait avec Mariette et Sylviane un petit peu,
Oui.
et Brigitte. Alors, vous n'êtes pas passé, il y en a d'autres qui viennent de la France, ils vont. Le réflexe naturel, c'est d'aller à l'Alliance française. Ils
Ah non, moi pas du
vont
tout.
pas du tout, pas eu besoin
Non, non,
de
non.
faire ça.
J'avais déjà un réseau d'amis du côté anglophone, donc j'étais très bien implantée au niveau de mes amis. Je vivais à River Heights, j'avais une chambre là-bas. Après, j'ai gardé une maison pendant un an pour un couple de gens qui étaient partis faire des fouilles archéologiques en Turquie. Donc j'ai vécu dans cette maison. Tout s'était déroulé, les choses se déroulaient tellement facilement les unes après les autres. Je trouvais la maison, je trouvais le travail. Et puis un jour, j'ai acheté ma maison. Et puis à River Heights, j'ai trouvé une petite maison à acheter et j'ai acheté une maison.
Et puis, est-ce que c'était un processus naturel de passer de résidente permanente à citoyenne canadienne?
Oui.
Ça, y a pas de.
Pas d'embûches, c'était
Non, c'est
facile, oui.
ça. Est-ce qu'il y a des choses à apprendre? Non, je sais qu'il y a un petit test, là, mais.
Oui, il y a un test d'histoire à passer, et puis c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Je veux dire, il faut apprendre le bouquin, et puis c'est tout, quoi.
Oui, c'est ça.
Mais j'avais quand même quelques notions du Canada, puisque j'avais fait mes études là-dedans.
Oui.
Donc, il restait plus grand-chose
Oui,
à
puis
compléter, mais.
tu dis que tu as fait des études en
C'est ça.
civilisation canadienne, mais
Oui.
notre civilisation est très, très jeune, là.
C'est ça, donc c'était
Pour
pas
vous autres,
très.
150 ans en France,
C'était rien.
c'est
Oui.
rien.
Ouais.
Alors, c'est ça.
Mais on remontait avant quand même. C'est-à-dire qu'on
Oui.
remontait à avant la Confédération.
Oui, mais il n'y a pas de, y a pas beaucoup de littérature, de quoi
Non.
que ce soit
Non, c'est ça.
là, avant tout ça, là,
Absolument.
ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont surprise au Manitoba? Par exemple, la communauté autochtone, c'est que
Ouais. Mais
ils ont
j'avais
été
été.
oubliés, ensuite ils sont
Oui.
revenus,
Mais j'avais
puis.
été sensibilisée beaucoup parce que un de mes écrivains préférés, c'était Thompson Highway. Et puis Thompson Highway écrivait beaucoup sur. Ben, il a écrit son livre Kiss of the Fur Queen sur les écoles résidentielles et sur sa vie. Et c'est vrai que c'est un écrivain autochtone. On a beaucoup travaillé sur. La littérature autochtone avec de Louise Etheridge et puis comme les autochtones qui ont fini par prendre la plume plus tard
Oui.
à l'université. Donc j'étais assez sensibilisée à toute la question autochtone. Mais là où j'ai été choquée, c'est que quand on parle de réserves autochtones, etc., et qu'on est encore en France sur le sol français, même si on sait que on parle de réserves dans lesquelles il est difficile de vivre, etc. Mon plus gros choc, ça a été quand je suis allée passer 3 semaines dans une réserve. Je suis allée passer 3 semaines à Moosonee, dans le nord de l'Ontario. Et là, je dois avouer que le choc a été
On
dur.
voit de la misère.
Ouais,
Ouais,
ouais.
puis
Et j'ai été choquée que le Canada puisse donner des leçons sur les droits de la personne en oubliant les autochtones à ce point-là.
Et puis la perception du Canada quand on est en France, c'est quoi?
Oh, mais c'est magique. C'est le Canada, c'est le pays des droits de la personne, c'est les prairies, c'est les lacs, c'est la nature, c'est l'authenticité, c'est la paix.
Mais ça, c'est une image qui... Bon,
c'est du marketing.
C'est du marketing, c'est une image qui va très bien si on veut venir prendre des vacances
c'est
ici
ça.
Ou travailler
c'est
un
petit peu.
C'est
le côté romantique.
Mais de dire, est-ce que la réalité est tombée différemment? Mais...
Elle a mis du temps à tomber différemment, je dois avouer. C'est vrai qu'elle est tombée différemment quand je suis allée dans cette réserve en 2008, passer Noël. J'avais passé 3 semaines là-bas. Et je dois avouer que ça a été la première fois où j'ai été déçue du Canada. Parce que lire sur les réserves, entendre parler des réserves...
On pense que c'est de l'histoire passée. Là,
on pense que c'est de l'histoire passée, puis on n'imagine pas que c'est un monde parallèle. Et là, on voit le Canada avec toutes ses paillettes, sa belle image, son image romantique, tout ça. Et puis là, on arrive dans une réserve et on se dit, mais comment est-ce qu'ils arrivent à si bien cacher ça du reste du monde? Si le reste du monde savait ce qui se passe dans les réserves, il n'y a pas de chance que le Canada aurait l'image à l'étranger, sur la scène internationale, qu'il a présentement. Comme ce jour-là, je me souviendrai parfaitement, j'étais en train de parler avec une travailleuse sociale à Mousseni, dans la réserve de Mousseni. Et puis, elle me disait que dans le centre de jeunes, parce qu'elle avait un centre pour les jeunes femmes, elle avait une jeune fille sur deux qui était victime d'inceste. Et puis, je voyais, il n'y avait pas de fenêtres, c'était du carton, les maisons étaient délabrées. Vraiment, c'était délabré.
Ouais.
Et je me disais, mais comment est-ce que le Canada... À l'époque, ça me semblait mais complètement fou, quoi. Comment est-ce que le Canada peut donner des leçons au reste du monde, que ce soit sur les colonies juives sur le territoire palestinien ou autre chose, ou sur la misère des Palestiniens, alors que ils regardent même pas devant chez eux. Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas reconnaître le fait que ce territoire appartenait aux autochtones avant? Et comment est-ce qu'ils sont en train d'expliquer au reste du monde quel territoire appartient à qui, alors que chez eux ils ne sont même pas capables de le reconnaître? Et puis il faut se rappeler qu'en 2008-2009 on ne parlait pas encore de vérité-réconciliation. Voilà. ça a démarré à peine là, on n'était pas dans quelque chose de très... Donc j'étais dans ce... Pour moi, ça a été c'était ma première rencontre avec l'hypocrisie du Canada.
Et puis, est-ce que vous l'avez vu... Oui, non, ça va. Puis est-ce que vous l'avez vu aussi avec la communauté francophone et métisse? Je sais que ce n'est pas la même injustice qui a été commise, là, mais c'est ça.
Non, je ne l'ai pas vécu comme ça, parce que moi, je suis arrivée... Ma première rencontre avec les métis, c'est Gabriel Dufault.
Oui.
Je me suis liée d'amitié avec Gabriel Dufault et il m'a vraiment enveloppée dans sa culture métisse et dans sa fierté métisse, et je ne voyais pas du tout les tensions. C'était quelqu'un qui faisait les choses sans amertume, sans revanche.
Mais c'est
sans...
assez récent, ça, comme phénomène.
Absolument, mais moi, c'est là où je l'ai ressenti. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti.
On avait tourné la page.
Le regain de fierté.
Oui.
Oui, vraiment. Oui. Et puis, je comprends que...
Mais il y a 30 ans, c'était pas comme ça.
C'est ça. Il paraît que c'était...
50 ans, c'était pas comme ça.
Et puis là, encore une fois, quand on ne le vit pas, c'est difficile à imaginer, comme les réserves autochtones. J'ai pu en entendre parler, lire et étudier là-dessus. Tant qu'on n'y a pas mis les pieds, on ne réalise pas le désarroi qu'il y a là-dedans, et la misère.
C'est ça.
Pour moi, c'était tout simplement le tiers-monde. J'avais l'impression d'être dans le tiers-monde. Je me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait le tiers-monde au Canada. C'est pas possible, quoi. Un pays si riche... qui est le tiers-monde de la corruption, parce que je...
Oui.
C'était pas juste la faute du gouvernement ou autre chose, c'est que il y avait des problèmes partout. Et puis je me disais, mais c'est pas possible qu'ils soient autant oubliés. Comment est-ce qu'on fait?
C'est ça. Alors, oui.
Pour les oublier comme ça.
Et puis nous, on ne voit pas parce qu'on n'est pas à l'extérieur.
C'est ça. Et à côté de ça, les métis. J'ai rencontré Gabriel Dufaux, qui a fait venir ses amis Paul Desrosiers. Et puis alors, Paul Desrosiers, il ne comprenait pas que la liberté soit dirigée par une Française au début. Hein, et,
ah non.
Et, oh non, non. Ça, c'est... Puis bon, finalement, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai gagné son cœur aussi. Mmh. Et puis petit à petit, ils ont vu que je mettais dans le journal aussi. J'accordais une place à cette histoire parce que pour moi elle était différente des francophones.
Est-ce que aussi il y a tout le côté urbain-rural un peu dans la francophonie manitobaine?
Oui.
On parle de Saint-Boniface.
Oui.
Il y a une persospienne Saint-Boniface. Et puis ensuite on va à la Broquerie, à Sainte-Anne ou à Sainte-Rose. C'est pas la même chose. Est-ce que vous avez vu cette différence? Parce que les gens se connaissent tous.
Oui.
Mais on vient pas de la même place.
Non, mais j'ai aimé le. J'aime beaucoup les. Ce que j'aime vraiment, c'est la façon dont les gens ont embrassé leur culture avec l'amour de la place. C'est-à-dire que qu'on parle à quelqu'un de la montagne, mmh. ou de Saint-Boniface, ou de Saint-Pierre-Joli, ou de Saint-Jean-Baptiste, ou ailleurs, ils vont chacun, on sent une fierté particulière à venir de telle ou telle place. Et ça, j'ai vraiment aimé, parce que l'accent est différent, on vante sa partie de la province, l'ambiance qu'il y avait à l'école, tout un tas de choses qui me plaisent et qui m'attendrissent, en fait. Mmh. Quand j'entends Mariette Muller me parler du commerce de son papa et de ce qu'il faisait, pardon, je voyais qu'il y avait une fierté et puis que c'était l'homme d'affaires du village, quoi. C'était, c'était important. Oui. Et puis qu'il a transmis, et que c'est pas parce qu'il venait de ce village qu'il n'a pas transmis l'amour des affaires à ses enfants. Mmh. Au contraire. Oh, ça, je trouvais ça absolument fabuleux.
OK. Alors, c'est ça. C'est une société qui est pas tellement compliquée, mais qui a quand même ses particularités.
Je la trouve pas compliquée du tout, mais je la trouve... Ce que j'aime, c'est qu'on aurait l'impression qu'elle est très homogène, et en fait, elle est très diverse. Et à chaque fois qu'on va à la Broquerie ou à Notre-Dame-de-Lourdes, ou Saint-Pierre-Joli, ou l'Hôtelier, on voit qu'il y a, dans chacune de ces municipalités, une identité propre.
C'est ça.
Et souvent, elle se fait aussi par les commerces, par les activités culturelles, par un bière et sénette, ou par une boîte à chansons. Et les gens nous parlent aussi des boîtes à chansons de l'époque.
Oui.
Et là, on se dit, c'est... ils sont fiers de ça, et puis on voit comment eux, tout cet engagement social et communautaire leur a permis de se forger, et sont devenus, et toutes ces personnes-là, sont devenues à leur tour des leaders et des personnes engagées, et puis... et ça, je trouve ça absolument fabuleux. Quand je pense à des Raymond Lafont, à des Mariette Muller, ce sont des gens qui ont grandi dans des endroits où on pourrait se dire, c'est tout petit. Et puis là, je vois une Mariette Muller qui est PDG du World Trade Center, qui siège sur le conseil d'administration des World Trade Center au monde. Mais ce qu'on voit qu'elle a réussi à avoir, c'est la confiance.
Oui.
Et ça, c'est... Elle a de la fierté et de la confiance. Et c'est ça que ça prenait et que ses parents ont réussi à lui donner certainement, et puis que son village a réussi à lui faire mousser, et puis pour lui donner cette énergie nécessaire pour aller vendre son Manitoba, parce qu'elle en est fière pas à peu près, son Manitoba sur la scène internationale. Et parfois je me dis, bon ben, je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de place au monde où on pourrait voir des gens qui ont réussi à s'approprier autant leur province ou leur région, et puis la vanter sur la scène internationale.
C'est ça. Tu es là, ton premier arrivé, c'était en 2006, c'est ça? À peu près.
La première arrivée de 2003, la toute
2003,
première.
Mais 2006, c'était plus
oui,
permanent.
Permanent.
OK. Avant 2006, on n'avait pas beaucoup d'immigration.
C'est vrai.
Tu as vécu un peu la vague
Ah oui.
d'immigration africaine, marocaine, France,
Belgique,
Belgique, un peu partout.
oui.
Comment tu as vécu ça? Parce que tu faisais partie de ce groupe, mais en même temps,
Moi,
en
je faisais
étant
pas.
à la liberté, tu étais déjà bien établi et puis c'est allé plus vite pour toi, là, mais.
Alors c'est rigolo, je n'ai jamais eu l'impression,
Non.
mais alors ça c'est vraiment drôle, je n'ai jamais eu l'impression d'être une immigrée. C'est-à-dire que je n'ai jamais vécu, jamais,
Oui.
le sentiment d'immigration.
Oui, parce que tu t'es intégré immédiatement,
Tout de suite.
mais tu le vois probablement chez d'autres qui
Alors,
se sentent un peu dépaysés là.
oui, je le vois chez d'autres qui se retrouvent entre Français. Et moi, j'avais des amis de partout,
Oui.
sauf des Français. Alors qu'il y avait des groupes, je me souviens de groupes d'amis qui se retrouvaient au restaurant chez Sophie et qui étaient entre Français. Je n'ai jamais eu ce désir de retrouver les autres Français. Jamais.
Oui, c'est ça.
Ça ne m'interpellait pas. Et ça, c'est peut-être dû aussi à mon enfance, où chaque fois que j'arrivais dans un port, j'étais en train de vivre le moment. Et puis là, j'arrivais au Manitoba, j'ai vécu le Manitoba. J'ai pas vécu la France au Manitoba.
Parce que je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des gens qui arrivent de France, mais le réflexe numéro un, c'est on va aller à l'Alliance française, on va rencontrer d'autres Français, on va se recréer un petit
Oui.
village. Mais ça, ce n'est pas ton expérience,
Ah
mais
non.
tu l'as vu.
Je l'ai vu,
Comment tu
oui.
vois comment tu perçois cette situation-là, si on veut? Parce que la communauté africaine, ça, c'est une
Oui.
particularité aussi, la communauté belge probablement aussi.
Ben, je l'ai vu, oui, parce que j'ai été sollicitée pour faire partie de ces groupes-là. Et puis, je n'ai jamais pensé quoi que ce soit de mauvais.
Non.
Je me suis dit, bon, ben, s'ils ont besoin de ça, ok. Mais je me demandais, quelque part, pourquoi ils étaient venus. Je me disais, tiens, c'est rigolo, si tu essaies de retrouver ton pays, c'est que quelque part, il te manque un peu. Moi, ça m'a jamais manqué, la France. Quand j'y suis allée, j'étais contente d'y aller, mais surtout, j'étais contente de revenir ici. Pendant mon premier congé maternité, mon conjoint était pédiatre en France, et donc il a fait les allers-retours pendant quelques années. Et pendant mon congé maternité pour Samuel, j'ai effectivement passé 5 mois en France. Au bout de 5 mois, j'étais contente de rentrer. C'est mon chez-moi.
Oui.
Ça a été très vite mon chez-moi, en fait.
Alors, quand tu es retourné, tu as vu, c'était différent ou c'était je suis aussi bien ici
Mais
que là-bas.
d'y rester longtemps et pas seulement pour des vacances, j'avais compris pourquoi j'avais quitté. Il y a des moments difficiles quand mon père a eu son cancer. Ça a été dur d'être loin. C'est les moments difficiles. Quand on donne naissance à un enfant et qu'il est malade pour la première fois, même si son papa est pédiatre,
Oui.
c'est maman que j'avais envie d'appeler, c'est ma mère.
Oui.
C'était pas. Donc, dans ces moments-là, on le
C'est
ressent.
ça, mais c'est un attachement de famille, mais pas de pays.
Pas de pays du tout.
Pas de pays du
Non,
tout, c'est
j'ai
ça.
jamais. C'est ça. Mais. En fait, je ne sais pas ce qui se passerait si je quittais le Manitoba. Je ne suis pas certaine que j'aurais des regrets. Une fois que j'ai tourné la page, je n'ai plus de regrets. Je suis bien là où je suis, en fait. Tout
Ah, tu
simplement.
connais le Québec un petit peu?
Oui, je connais le Québec, je connais Vancouver, puisque j'ai mon cousin qui vivait à Vancouver. Lui, il était chercheur en médecine nucléaire à Vancouver, à UBC. Et lui me disait, bah, pourquoi tu viens pas vivre à Vancouver? Je suis là, on est de la famille. Et pour moi, c'était pas une.
Parce que moi, je suis pas allé en France longtemps. Je suis de passage, finalement.
Ouais.
Mais je parle français. Ah, vous venez du Québec. C'est la perception là-bas.
Ah oui, je crois qu'il y a
On m'a dit ça.
une ignorance totale sur le fait qu'il y a du français en dehors du Québec, ça c'est sûr. Je dirais que les plus éduqués vont penser qu'il y a du français au Nouveau-Brunswick, mais sorti de là, il ne faut pas demander.
Ah non, hein.
Mais je pense qu'il ne faut même pas leur demander s'ils savent ce que c'est que le Manitoba. Hein.
Non.
Je pense que.
C'est tout un grand pays.
Oui. Canada,
Oui,
c'est le Canada, là. C'est pas, il
c'est
n'y a pas
ça.
de.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Ouais.
Donc je pense que c'est une question de. Même pas de français ou de francophone. C'est tout simplement une ignorance pas mal grande sur le Canada en général.
Parce que vous avez vu probablement aussi, il y a une différence de mentalité entre les gens qui viennent du Québec et les gens qui sont d'ici depuis toujours.
Ouais.
On s'entend bien, mais
Mais pour
c'est...
moi, le Québec, c'était pas une option parce que j'ai retrouvé trop de la France là-dedans. C'était pas un changement assez conséquent pour que. C'était entre les deux. Mais j'avais pas envie d'être entre les
Mais
deux.
tu parlais anglais, alors si tu t'es dit...
Oui, j'aurais pu aller ailleurs.
Tu aurais pu te débrouiller au Manitoba en
Absolument.
anglais, et puis
Oui.
personne ne l'aurait su, et puis
D'ailleurs,
ça...
j'ai eu des propositions d'emploi en anglais, en RBC, et puis tout ça. J'ai eu des offres en anglais. Mais bon, c'est vrai que c'était pas le.
Parce
C'était.
que souvent, c'est l'obstacle numéro un, là. Quelqu'un qui
Oui,
est
ça c'est
immigrant,
vrai.
la langue,
Oui.
que ce soit le français ou l'anglais, on s'accroche.
Oui. Et
Et
ça, c'est un
puis...
discours que je tiens maintenant, que je ne tenais pas au début, parce qu'au début, j'avais envie de crier au monde entier que le Manitoba, c'était le paradis sur Terre. Et du coup, il y a pas mal d'amis français qui sont venus nous voir ici et puis qui ont eu à leur tour envie d'immigrer ici. Mais ce que je dis maintenant, parce que j'ai compris qu'on ne pouvait pas être heureux ici si on ne maîtrisait pas un minimum d'anglais. Il faut être honnête, on a besoin de l'anglais.
Oui, c'est ça. Alors, je pense que
On a fait le tour, hein?
ça fait le tour,
Oui.
à moins que tu aies d'autres choses à ajouter, là,
Non,
une
c'est.
impression quelconque ou
Est-ce que
ça.
tu
Ben,
veux aborder le.
tu t'es marié, ton mari est de la France aussi.
Alors, je suis pas mariée, mais oui,
Ah
effectivement,
ouais, ben oui, ton conjoint,
mon conjoint
pardon,
est de la
pardon.
France.
Oui, c'est
Mon
ça.
conjoint, en
Et
fait,
puis,
il
vous êtes
est.
établis les deux ici, là, puis ça
Mais
va
on ne
bien.
s'est pas rencontrés en France, en fait. On s'est rencontrés ici,
Ah,
grâce au
OK.
journal.
Ah, OK.
Donc, ce sont des gens qui étaient venus ici au Manitoba pour faire soigner leur enfant d'une maladie qui est grave, qui était très grave. Et Thomas était leur pédiatre.
Ah, OK.
Et ils sont venus faire un traitement expérimental à Winnipeg. Et puis, quand est venu le temps de rentrer en France, leur pédiatre, Thomas, est venu les rencontrer ici pour rencontrer l'équipe de médecins qui s'était occupée de son patient. Et puis, parler des protocoles de soins. Et effectivement, c'est là que j'ai rencontré Thomas. Et puis, il est revenu, et puis il est revenu, et puis il est revenu. Et puis un jour, on a décidé qu'on était vraiment amoureux. Et puis
Oui.
il a fait pendant quelques années, 3-4 ans, des allers-retours tous les 20 jours. Il faisait des allers-retours entre la France et le Manitoba. Et puis, à un moment donné, on a décidé d'avoir un enfant ensemble. Et puis Samuel est né en 2013. Il est né au Manitoba. Et je m'amuse à dire que c'est un petit franco-manitobain qui est né à l'université de Saint-Moni, à l'hôpital de Saint-Boniface.
Absolument.
Et puis après j'ai une fille, Charlie, en 2015, qui est aussi une petite franco-manitobaine.
Oui, alors c'est ça.
C'est
C'est
ça. C'est. Et
des
Thomas,
Canadiens.
et ce sont des Canadiens. Et Thomas, il n'est pas encore Canadien, il est résident permanent maintenant, parce qu'il a fait sa demande.
Oui.
Il l'a obtenue en 2014. Donc lui, il a eu sa résidence permanente quand moi j'ai eu ma citoyenneté. Et puis, Et puis maintenant, il travaille à l'hôpital. Ça n'a pas été facile parce que l'équivalence
Oui.
est très très compliquée à obtenir.
Oui.
Et puis, donc ça demande beaucoup de. Ce sont des défis d'immigration qui sont très durs, ça par contre. Autant moi, je n'ai pas eu de difficulté à rentrer tout de suite dans la vie active, autant lui, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues.
Oui, beaucoup de la jalousie par professionnel un petit
C'est
peu.
très fermé, oui.
Oui,
C'est très
c'est
fermé,
ça.
oui.
Et puis, peut-être pas besoin de répondre, mais ta mère, quand elle se retrouve avec deux petits-enfants qui sont canadiens,
Oui.
comment est-ce qu'elle appuie ça? Elle venait d'Israël, alors
Non,
ça l'a pas
maman, elle venait
dérangé?
de elle est née en Algérie,
Ah,
mais elle est juive,
les
mais
Juifs.
elle a jamais vécu en Israël, ma
Ah,
mère.
OK.
Ses parents, après, oui, ont vécu en Israël, mais ma mère, elle était très contente. Ma mère, elle a vécu finalement, elle est comme elle a grand, elle est, mon grand-père était dans l'armée, était militaire, donc elle a vécu entre l'Algérie, puis le Maroc, puis l'Allemagne, puis la France. C'est une déracinée aussi. Et du coup, avoir des petits-enfants canadiens, elle est super fière, elle est contente comme tout,
C'est ça.
elle est heureuse, elle vient souvent. Mon père est venu une fois
Ouais.
à cause de sa maladie, mais oui, ils sont heureux d'avoir des petits-enfants canadiens.
Oui,
Ouais.
c'est ça. À moins que tu aies autre chose à ajouter, là,
Non, je pense
ça
pas.
va?
Je pense qu'on a fait le tour,
Oui, je
pas
pense que
mal. Ouais.
oui. Oui, exactement.
Mais
Alors,
merci
merci
beaucoup.
beaucoup.
Merci, Michel.
Merci. Alors, 1h36.